Occitanie, terre d'extase. Extase, parce qu'il nous arrive à tous d'être à ce point admiratif d'un site naturel, d'un édifice, d'une œuvre d'art, que nous nous en oublions nous-mêmes. Il est à Verdal, dans le département du Tarn, un château et de vastes jardins botaniques en tout point remarquables. Situé au pied de la Montagne Noire, il s'offre comme un lieu de promenade, de contemplation, de méditation aussi, voire de retraite, et de rencontre avec la nature omniprésente et l'art. Les propriétaires et animateurs de ce lieu haut en couleurs et en ressources vous en présentent les multiples aspects. Ce sont Francine Dau, Schneeberger, et Christian Dau. L'initiatrice du projet Jardin de l'Ange, Francine, vous dira la richesse des jardins et la diversité culturelle du lieu où se rencontrent les spiritualités et cultures du monde. Christian évoquera pour sa part l'historique du château avec les activités de formation, de réflexion et les animations qui s'y déroulent, ainsi que les modalités de l'accueil que l'on y reçoit. Mais avant cela, je remercie Léo Tourault, l'homme de la technique, qui va rendre possible dans notre studio cette nouvelle émission de Occitanie, terre d'extase. Et pour vous mettre doucement dans l'ambiance du château, de sa magnificence végétale et minérale, écoutons un extrait de la création de Joseph Haydn. J'ai le plaisir d'être en ce moment dans le château de Verdal. Je dis dans et pas au château, parce qu'en fait, ce qui est important et impressionnant quand on y arrive, c'est le volume. Donc on est enveloppé tout à coup, non seulement par le bâtiment, son architecture, mais aussi par la nature environnante. Et puis on est enveloppé par la bonne humeur des deux propriétaires et animateurs de ce château, dont on va voir qu'il comporte de multiples activités. Alors, je suis en présence de Francine Dau Schneeberger, qui est l'initiatrice du projet Jardin de l'Ange, et d'ailleurs aussi présidente de l'association des Amis de Colombe Blanche, et aussi en présence de son époux, Christian Dau. Et c'est à lui, en premier, que je vais demander un rapide tour d'horizon historique, parce que quand même cette silhouette immense du château de Verdal suggère qu'il a eu une histoire remarquable.
Bonjour Pierre-Jean. Effectivement, l'histoire de ce château remonte à presque 9 siècles, puisque c'est Raymond Trencavel qui avait fait don de ce fief au seigneur de Dourgne pour sa loyauté, etc. Donc le château d'origine était en fait un château féodal qui était
Il y avait une
relu.
motte féodale.
Il y avait un, c'était, oui, il y avait une motte, mais une motte artificielle. Si on prend le château d'Escoussins,
Oui,
par exemple, c'était
c'est
vraiment
ça. Oui,
un
parce qu'on est dans
castrum.
une plaine,
Voilà.
donc forcément il fallait une motte
Exactement. Et surtout que les châteaux
importante.
féodaux, à ce moment-là, étaient entourés, enfin, les maisons entouraient le château, et c'était vraiment un fort. C'est pour ça que ça s'appelle encore la place du fort ici.
Ah oui.
Et comment dire, ce château a vu beaucoup de transformations, bien sûr. Et donc au fil des siècles, surtout, on ne sait pas beaucoup entre la période féodale et la période, je veux dire, Renaissance peut-être. Par contre, on sait qu'il a brûlé pendant les guerres de religion. Et en fait, il s'agit du corps principal du château qui a brûlé. Les deux tours ont subsisté. Et grâce à une palissade en bois qui a servi de fusible. Et environ 30 à 40 ans plus tard, en 1606, l'épouse du comte de Verdal et de Loubens et de Verdal, pardon,
Oui.
a fait construire la partie centrale du château avec les pierres d'aujourd'hui. C'est-à-dire le château d'origine était féodal et défensif. Pardon, le château d'origine était féodal et défensif. Le château d'aujourd'hui est résidentiel.
Oui, c'est clair.
Voilà.
Oui, il a tout à fait cette architecture.
Oui. Et il a vu encore des transformations par la suite. Et notamment, il existe encore aujourd'hui, surtout que quand vous allez parler des jardins, il existe encore aujourd'hui des traces du jardin à la française qui avait été fait avant la Révolution. Alors, quand exactement, on ne le sait pas, mais les cadastres, justement, de 1833 indiquent ce jardin. Et ce qui signifie qu'il avait été fait bien avant, bien sûr. Et aujourd'hui, on a encore, mon épouse a encore gardé certains de ses aspects, bien que ça ait bien changé.
Oui, parce que maintenant, c'est vraiment pas un jardin à la française. Je dirais, c'est bien mieux que ça,
Oui.
parce qu'il y a une diversité à la fois de formes
Voilà.
botaniques. Nous avons en
Exactement.
parlé tout à l'heure. Et alors, est-ce qu'il y a eu des personnages marquants pour ce château, pour y vivre?
Alors, il y a eu
Vous avez parlé du comte de Verdun, du coup.
le comte de. Ah, oui, ils se sont. Alors, au
Loubens-Verdun,
début,
oui.
c'était des barons, et au fur et à
Oui,
mesure,
bien
et c'est
sûr.
monté jusqu'au marquis.
Oui,
Euh,
oui.
et, et je ne savais pas, d'ailleurs, pendant longtemps, quelle était la différence entre un marquis et un comte.
Oui.
Et en fait, j'ai appris que le marquis était la même chose qu'un comte,
Oui.
mais qu'il avait le droit de lever une armée.
Oui, c'est ça. Et puis, dans marquis, il y a le mot marche,
Voilà.
c'est-à-dire aux marches de quelque chose,
Oui.
pour protéger.
Exactement.
D'accord?
Et comment dire, le frère de celui qui a construit la nouvelle partie était en fait cardinal sur l'île de Malte. Et là-bas, il a construit le palais Verdala, qui
Ah
existe
oui,
toujours
qui
encore
existe
aujourd'hui.
toujours.
Et qui est une des résidences des présidents maltais.
Ah, très bien. Oui, alors l'ordre de Malte a encore une résonance ici, c'est ça?
Oui. L'ordre de Malte a une résonance et tous les propriétaires de la famille avant que ça soit vendu après la Révolution, tous ces propriétaires étaient chevaliers de l'ordre de Jérusalem
Ah
aussi.
oui.
Et donc il y avait toujours cette connotation religieuse, mais en même temps, on a l'impression que c'était des gens qui étaient pieux et qui s'occupaient toujours des autres,
Oui, c'est ça, espèce de.
dans un sens, oui. Et ça, c'est allé jusqu'au moment où nous, on a acheté la
Oui,
propriété.
alors oui, parce que vous êtes aussi l'un l'autre, ou l'une et l'autre partie prenante de cette histoire. Qui n'est pas terminée, sûrement pas, qui est en train de, par contre, prendre une inflexion dont nous allons parler après. Et alors, ça remonte à quand votre contact avec ce château?
Ah, il y a 11 ans, 12 ans en fait,
Oui.
qu'on a trouvé le lieu. Et ça fait 11 ans qu'on est propriétaire. Et nous avons acheté au diocèse d'Albi, qui était propriétaire à ce
Ah,
moment-là,
très bien.
parce que la propriété avait été léguée aux Sœurs de la Croix de Lavaur par la dernière propriétaire privée, Mademoiselle d'Aubergeon. Et donc c'était un peu un viager, quoi. Donc l'endroit était inoccupé en fait pendant une bonne dizaine d'années
Ce
avant
qui est
que nous
beaucoup,
arrivions.
ce qui est
C'est
beaucoup,
beaucoup.
puisqu'on considère que 10 ans, c'est pour une bâtisse,
Oui.
c'est le début de la fin.
Et avant ça,
Donc, comment
disons.
l'avez-vous trouvé, techniquement, pratiquement, quel type de dégâts avez-vous constaté? S'il y en avait.
Il y en avait beaucoup,
Beaucoup.
beaucoup, puisque le lieu était inhabité et que pendant un moment, il y avait une communauté qui était installée, pardon, avec
De façon légale
de
ou
façon légale,
clandestine. Ah bon,
absolument légale,
d'accord.
oui.
Bon.
Et c'était en fait le diocèse qui avait laissé la communauté s'installer ici. Mais il y avait des mobil-homes où se trouve la roseraie maintenant et où se trouvait le château d'origine d'ailleurs.
D'accord.
Et avec des douches en bois à l'extérieur. Donc c'était un peu
Ouais, un campement.
vécu à la sauvage.
Ouais,
Et
ouais.
le pesquier qu'on a remis en état était un dépotoir en fait. Donc il a fallu vraiment mettre beaucoup de
Qu'est-ce que vous
choses en
appelez
état.
le pesquier?
Le pesquier, c'est ce qu'on appelle ici un étang à poissons.
Ah, d'accord. Ah oui, pesquier, pêche.
Voilà,
Hein, très bien.
voilà.
Et il existe encore.
Il existe toujours, mais nous
Ouais.
l'avons remis en
En
état et
état.
réaménagé aussi.
Il y a des poissons aussi.
Il y a des poissons.
Parfait.
Mais bon, c'est pour la déco, c'est pas pour
C'est
la
pas pour la
consommation.
consommation.
Voilà.
D'accord. Alors, poursuivons notre visite, Francine, si vous voulez bien. Parlons des aspects liés davantage à la spiritualité qu'on trouve ici très présente et sous des formes très différentes. Donc, on a parlé ensemble avant l'émission d'une espèce de syncrétisme. Alors, c'est un mot peut-être un peu décalé, mais en tout cas, il commence par la même syllabe que synthèse. Alors, on peut dire que ce syncrétisme ou cette synthèse, c'est ce que produit l'environnement du château et le château lui-même avec son aménagement quand on le visite. C'est-à-dire qu'on rencontre les religions, les spiritualités du monde. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu faire particulièrement, vous, Francine et Christian, avec cet objectif en tête?
Alors, l'objectif, c'est de créer un lieu d'accueil, un lieu de rencontre très libre, très ouvert, où peuvent se rencontrer, voilà, des gens, peu importe d'où ils viennent, peu importe leurs croyances. C'est un lieu.
Oui, alors je me tourne vers vous maintenant, Francine.
Bonjour Pierre-Jean.
Bonjour, bonjour. Puisque vous êtes l'initiatrice du projet Jardin de l'Ange, ben, nous allons parler du jardin. Et je dois dire que entrant ici dans votre domaine, j'ai été impressionné par la diversité incroyable que l'on a en face de soi. Au plan botanique, les plants. Alors, on peut être très connaisseur ou pas connaisseur du tout, c'est mon cas. Mais on voit bien qu'il y a une diversité extraordinaire, donc qui doit enchanter toute visite, à la fois des profanes et des spécialistes. Alors, parlons de la richesse botanique du jardin. Qu'est-ce qu'on trouve quand on arrive ici, en suivant le parcours que peut-être vous proposez, vous? Il y a un parcours, il y a un sens de visite, on peut le dire comme ça.
Oui, 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 absolument, il y a un sens de visite avec des fléchages, des ouais. numérotations avec les différents jardins.
Ouais.
Il y a 23 jardins ou places avec des thèmes différents.
23 jardins.
Oui, avec des thèmes différents.
Ouais.
Et des thèmes qui sont très éclectiques en fin de compte et qui sont malgré tout tous porteurs, on va dire, d'un message, voilà, un message pour les gens.
D'accord.
Et il y a des personnes, des visiteurs qui vont être plus attirés par un jardin, par un thème, et puis d'autres par un autre. Et c'est ça, en fait, qui crée un petit peu un aspect ludique, parce que ça permet la découverte, voilà, de différentes... ça fait voyager, ça fait découvrir les différents espaces, voilà.
Donc il y a 23 jardins différents qui oui. Nous disent des choses différentes. Et alors, est-ce qu'on peut prendre un exemple déjà? Alors, le premier jardin venu quand on arrive?
Alors, un des premiers jardins, c'est le jardin d'antan, où on a reconstitué certaines parties, certains vestiges. On a mis à jour un vestige d'une ancienne noria, un puits à noria, qui avait été complètement détruit. Il y avait juste encore la partie centrale. Et donc, on l'a reconstruit. Ensuite, il y avait l'ancienne roseraie.
Mm-hmm.
Là aussi, on a reconstruit l'ancienne roseraie. On a planté beaucoup de roses, de rosiers. Et aujourd'hui, dans le jardin, on compte un peu plus de 280 pieds de rosiers.
Mm. Et d'ailleurs, faisons un aparté, vous allez fêter bientôt la rose, si j'ai bien compris, dans le château.
C'est ça, on va lancer la première fête de la rose des Jardins de l'Ange au mois de mai, le dernier week-end de mai.
Oui, vous avez en tête les dates?
25 et 26 mai.
25 et 26 mai.
Mmh. Voilà. Et donc tout tournera autour de la rose.
Et d'autres jardins, puisqu'il y en a 23, donc on va à chaque fois changer à la fois de thème, de message. Je reprends votre mot tout à l'heure.
Oui.
Il y a un message.
Alors il y a des jardins qui vont être plus sur une base poétique, d'autres plus sur une base d'évasion, d'autres plus sur une base spirituelle. Spiritualité du monde aussi.
Mm-hmm.
Donc ce sont des jardins qui vont inviter les gens à la fois à se poser, à se ressourcer,
mm-hmm.
à contempler,
mm-hmm.
À s'éveiller, à s'ouvrir. Voilà.
C'est déjà beaucoup.
Oui,
ce que vous dites,
et plein d'autres choses.
Et plein d'autres choses, oui, en effet. Donc oui, parce que quand vous dites 23 jardins, on imagine déjà que pour les visiteurs, c'est un parcours à suivre, qui est fléché, je crois.
Qui est fléché.
C'est ça.
Et donc on va traverser différents mondes. On va traverser le jardin zen, le jardin des soleils, la place de l'ange, les jardins d'eau, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y en a tellement. Le jardin Langeret, qui est très spécial aussi.
De quoi s'agit-il?
La place du rêve. Alors, Langeret, ça n'existe pas, évidemment, ce mot. Ça, c'était mon époux qui avait trouvé ce mot, qui collait très bien à ce que j'imaginais comme jardin. Alors là, ça fait sourire peut-être les grands, mais pour les enfants, c'est un peu magique, parce qu'on dit toujours aux enfants, les petites filles naissent dans les roses et les petits garçons dans les choux, parce que ça se dit toujours encore
oui,
d'ailleurs.
Oui, bien sûr, c'est tellement pratique.
Voilà, mais où naissent les anges ?
Oui, ah.
Voilà. Et ben dans notre jardin, les anges naissent dans l'angeret.
Ben, c'est simple.
Voilà. C'est tout simple.
C'est tout simple. Parfait. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a justement une spécificité botanique pour illustrer ce que vous venez de dire, à savoir la naissance des anges ? Qu'est-ce qu'il y a comme fleur, comme plante particulière ?
Comment alors, dans
vous avez pensé
dans
cet angeret ?
Oui. Alors déjà, cette angeret, elle a été construite un peu comme un monde à part. C'est-à-dire que c'est un jardin qui est entièrement circulaire.
Ah.
Il est créé en rond.
Mmh.
Et il y a un arbre que nous aimons beaucoup, c'est l'arbre couché. Alors, à ce
littéralement couché ?
Oui, il est couché, il a grandi.
Il pousse comme ça,
oui,
à l'horizontale.
C'est
presque.
Ça, c'est
ah,
ça.
Oui. Ah oui, ça mérite déjà aussi
voilà.
Un coup d'œil.
Et son essence, est, à ce jour, ne nous est pas encore connue. Nous avons demandé plusieurs personnes, déjà plusieurs spécialistes. Alors, il s'agit a priori d'une essence sacrée.
Mm-hmm.
Donc là, évidemment, c'est...
Dans une tradition spirituelle que vous connaissez ou pas ?
Non, carrément. Non. Enfin, peut-être sans doute, oui, en Inde, je pense, peut-être
oui.
Quelque chose sacré dans ces pays-là,
oui,
je ne sais pas.
Oui, oui, oui.
Mais on ne connaît pas exactement l'essence.
Bien,
et après...
Lançons un appel aux auditeurs
voilà.
Qui viendront ici et qui, peut-être,
son bois a une, a une odeur d'encens, un peu comme
ah,
ça,
oui,
un peu
ah,
de...
Oui,
très, très intéressant.
En effet.
Et qu'est-ce qu'il y a encore ? Ben, qu'est-ce qui fait la spécificité ? Ben, évidemment, il y a plusieurs statues d'anges avec des positions différentes. Alors, il y a un ange qui se frotte les yeux comme s'il était en train de se réveiller.
Oui.
Voilà,
devant
il y en a...
ce monde qui l'interpelle tout de même.
Voilà, ben voilà, parce qu'il vient de naître.
Hein, oui, oui.
Donc, voilà.
Oui,
il y en a un autre qui est à genoux en prière. Enfin, voilà, il y en a des différents anges. Il y a le banc avec l'arbre de vie aussi.
Ah,
donc,
oui.
Il y a des spécificités, des petits clins d'œil. Et il y a un peu plus de fleurs blanches aussi que dans d'autres jardins, voilà. Mais on s'y sent vraiment très bien.
C'est, oui.
C'est... En fait, dans chaque jardin, on va ressentir une autre atmosphère et une autre énergie. C'est ça qui est très intéressant.
Voilà. Oui.
C'est pour ça que les gens vont plus être attirés par le
tel
jardin
ou tel
zen,
jardin, oui.
Peut-être par la petite bambouseraie,
oui.
Le jardin des vents. Le jardin des origines, le jardin des terres, il y a un certain voilà, il y a le jardin des pierres, très okay. Intéressant aussi.
Oui. Ah, oui, oui.
Et à chaque fois qu'on rentre dans un nouveau jardin, on va ressentir autre chose.
Et ça vient de l'aménagement,
oui.
À la fois botanique et de la décoration.
Ça vient, voilà, et ça vient aussi de l'intention que j'y ai mise.
Oui.
Voilà.
Ça,
c'est comme si j'avais donné, si j'avais créé une âme, une autre âme pour chaque jardin.
Alors, vous avez cité là quelques arbres, plantes, et les rosiers, l'arbre couché. Est-ce que tout ça, vous l'avez planté vous-même, ou bien est-ce que, pour partie, il y a encore des restes botaniques de ce qui était avant votre venue
oui,
dans le parc ?
Oui, c'est totalement juste, puisque au départ, il y a des arbres centenaires, multicentenaires
ah,
pour
oui.
Certains. Que
quelle
nous
essence
avons...
vous avez ça en tête ?
Alors, je pense notamment à un arbre que j'aime beaucoup, qui est un calocédrus, qui est magnifique, qui est à peu près au milieu de la propriété, où les gens aiment beaucoup s'asseoir contre cet arbre. Il y a quelques spécimens de vieux marronniers, dont un qui est très vieux. En venant, les gens sont accueillis par une allée de tilleuls. Et ensuite, dans le parc, il y a des tilleuls, dont un remarquable, avec un tour de taille impressionnant. Il est là depuis un moment, voilà. Il y a des vieux chênes également. Et là, malheureusement, certains ont commencé à être attaqués par le capricorne. Donc, oui, dans la région, il y a pas mal
oui,
de,
en effet, oui.
ce fléau. Voilà. Donc, pardon, il y a, oui, bien sûr, qu'il y a tout ce patrimoine qui existe. Et en fait, les jardins ont été aménagés et imaginés autour de ce patrimoine existant.
C'est ça.
Et donc, il fallait faire avec.
Et vous avez en même temps complété, enrichi,
oui.
Planté à neuf. Oui. Certaines essences.
Alors certaines, beaucoup.
Il y a beaucoup.
Parce qu'il y en a, il y a quelques milliers d'arbres, d'arbustes et de fleurs qui ont été introduites dans ce jardin. Mm-hmm. Évidemment, il y a toujours un clin d'œil en fonction du thème du jardin. Il va toujours y avoir un clin d'œil. Par exemple, si je prends l'arbre de la Bodhi, alors bon, l'arbre de la Bodhi, je n'ai pas l'essence, le vieil arbre comme en Inde, mais on a pris un vieux marronnier et on a mis un Bouddha à son pied, donc on l'appelle l'arbre de la Bodhi. Et autour de cet arbre, on a planté des essences comme des ronces du Tibet. Et certaines plantes qui viennent du Tibet,
oui,
en fait. Voilà.
Par exemple. Trop dépaysé.
Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, en fonction des jardins, tout est étudié. Mm-hmm. Alors, ça, c'est à la fois étudié et ça paraît, ça semble ne pas être étudié.
Mais vous avez recherché, comme les compositeurs, une harmonie et un sens.
Et un sens, voilà. Par exemple, à la place du poète. Il y a la place du poète, avec un buste magnifique taillé dans la pierre de Victor Hugo, un ancien buste. Et là, ben voilà, autour de ce buste, il y a des fleurs que Victor Hugo aimait beaucoup, des hortensias, mais on a également planté des rosiers, et qui s'appellent le rosier Victor Hugo.
Oui, parce que c'est effectivement...
Évidemment.
Oui, en fait... C'est évident pour vous, mais ça mérite d'être vu. Et alors, vous parlez là de poésie, donc d'art. Il y a aussi des œuvres d'art. Il y a des sculptures dans le jardin de l'ange.
Oui.
Quelles sont les principales ?
Alors, il y a une partie de sculptures qui sont des sculptures de récupération qu'on a trouvées à force au fil des années, à droite à gauche. Et il y a une artiste qui vient du Nord-Est, dont il y a plusieurs œuvres dans le jardin, qui s'appelle Martine Cassard.
Martine
Cassard.
C-A.
C-A-2-S-A-R.
D.
Non.
Non.
Voilà.
Cassard. Très bien.
Voilà.
Martine Cassard.
Et donc, il y a plusieurs œuvres.
Oui.
Et notamment, il va y en avoir des nouvelles encore, et que les gens apprécient beaucoup. Et pendant la fête de la rose, notamment, il y aura une exposition-vente de certaines œuvres de Martine Cassard.
D'accord. Et bien, voilà.
Entre autres.
Voilà, il s'agit donc.
Il y a aussi, je veux surtout parler du tout nouveau jardin, qui est une surprise, qui est pour moi la cerise sur le gâteau. On ne peut pas parler de jardin de l'ange sans évoquer la lumière. Et donc là, c'est le dernier jardin, le jardin de lumière. Et là, il y a une création. Là, j'ai imaginé. En fait, de créer avec, on va dire que moi je crée et j'imagine les choses, et c'est mon époux et l'équipe d'amis qui sont les maîtres d'œuvre et qui doivent trouver les solutions pour créer. Donc là, il y a une œuvre qui, j'espère, va beaucoup toucher les gens, que j'ai appelée la fleur de lumière. Alors, cette fleur de lumière qui est faite, qui a un diamètre de 5 mètres, avec des pétales de, je crois, 2 mètres 50, 3 mètres. Et j'ai demandé à une artiste sorézoise d'intervenir pour cette œuvre. Et il s'agit de Catherine Juge-Touroude, donc qui est installée à Sorèze, qui est une artiste mosaïste verrière, je pense, qu'on dit, oui. Et donc, on lui a demandé de créer dans chaque pétale un vitrail avec chaque fois une couleur différente, les couleurs de l'arc-en-ciel. Mmh. Et je pense que cette œuvre, donc créée à plusieurs mains, va énormément toucher les gens. Ça sera comme un espèce de, je sais pas, une espèce de dôme sanctuaire à l'air libre, où les gens pourront méditer et surtout contempler ces vitraux, les ressentir la lumière, les traverser, parce que je pense que tout au long de la journée, le soleil fera miroiter ces vitraux, ces couleurs, et ça va donner quelque chose d'exceptionnel, je pense.
Certainement.
L'objectif était de créer un lieu d'accueil, un lieu spirituel, un lieu où les gens peuvent venir se ressourcer, peuvent trouver refuge, se ravitailler en bonnes énergies aussi. C'est un lieu qui, avant tout, pour moi, est un lieu qui transporte la paix, l'amour du prochain, l'acceptation de l'autre. C'est un lieu où peu importe d'où viennent les gens, peu importe leurs croyances, ils sont accueillis de la même manière. Dans ce monde où il y a beaucoup de choses qui séparent, qui désunissent, j'ai souhaité créer un lieu qui rassemble, qui réunifie, autour d'un thème qui est simplement être humain et tout ce que ça comporte. C'est pour ça qu'on va trouver dans ce lieu des clins d'œil, autant dans les jardins que dans le château, des clins d'œil à différentes spiritualités, différentes sagesses.
Lesquelles ?
Alors, par exemple, on va trouver le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme. On m'a même trouvé gravé sur une pierre le nom d'Allah. On va trouver un certain nombre de clins d'œil, tout simplement. Et je pense que même des personnes qui ne croient pas, mais qui croient simplement en la vie,
et en la nature,
en la nature,
Spinoza,
absolument. Oui. La nature est elle-même porteuse de beauté, d'amour, de belles énergies. Et je pense que chaque personne ici peut trouver ce qu'il cherche, s'il cherche quelque chose. Mais je pense qu'il peut être touché par ce lieu.
Oui, Francine, vous dites aussi rassembler, unir, réunir. Alors, il y a bien sûr ces spiritualités du monde qui sont évoquées partout où l'on peut se promener, mais il y a aussi d'abord vos écrits, on en parlera tout à l'heure, et puis il y a vos activités, les activités de ce lieu, qui sont des retraites, de la formation. Et donc, au plan pratique, réunir, rassembler, c'est quoi pour vous et comment ça se passe?
Alors, je fais souvent référence à des grands sages du monde. Et là, en ce qui concerne ce côté rassembler, réunifier, j'aimerais juste faire un petit clin d'œil donner une citation qui me tient beaucoup à cœur, de Baha'u'llah, un prophète persan, qui disait « La terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens. » Et ça m'a beaucoup touchée.
Oui, alors, quand vous parlez, Francine, de réunifier, de rassembler, de faire que les gens, les humains, se retrouvent sur une même ligne, on ne peut qu'adhérer à ce que vous souhaitez, surtout dans la situation actuelle au plan international, où il y a des guerres partout, il y a des injustices monstrueuses, il y a même des génocides en cours. Alors, que peut faire un lieu comme le vôtre, avec votre activité patiente? J'ai entendu parler Barbara Cassin, il y a peu de temps, des actions qu'on peut mener. Alors elle dit c'est comme la granulométrie, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont toutes petites comme ça, à peine perceptibles, puis il y a des choses immenses. Bon. Et alors, quelle que soit la granulométrie d'une action, qu'elle soit petite, un petit geste ou un grand geste, je crois que vous faites aussi ici dans ce lieu des grands gestes, l'important c'est d'agir, c'est de donner de la matière pour permettre des améliorations, des évolutions, j'ose pas dire des transformations, quoi qu'elles seraient nécessaires. Alors vous êtes engagé dans quelque chose qui est une spiritualité, un humanisme, vos écrits, vos activités, les retraites, la formation que vous donnez ici, dans votre domaine. Comment vous concevez ça au plan pratique, disons?
Alors, à travers notre association, nous proposons diverses choses. Notamment, nous avons des groupes de méditation. Nous proposons des retraites de vipassana, qui sont donc une méditation beaucoup plus longue. On va méditer 6 heures par jour. Et en fait, la méditation, pour moi, c'est un outil qui nous amène vers la paix intérieure. Et en fait, la paix dans le monde ne peut passer que par la paix en chacun d'entre nous. Ce n'est pas possible autrement. Donc ces outils sont des outils merveilleux, mais autant le jardin également. Et ensuite, des retraites avec des thèmes où j'explique des choses, et je me repose évidemment sur toutes les traditions et les sagesses du monde, et j'explique aussi dans les différentes retraites et les différents thèmes, toujours aussi à partir de ma propre expérience, de mon propre cheminement spirituel, qui est pour moi une base solide, un fondement solide dans tout ce que je peux écrire ou expliquer aux gens.
Alors, il y a un mot que vous aimez bien, vous, et Francine et Christian, c'est le mot de refuge, hein, pour caractériser votre lieu. Quand on entend le mot, on pense aussi un peu à la fuite. La fuite n'est pas honteuse, au contraire. Hein. Quelqu'un a écrit l'éloge de la fuite. Nous avons tous besoin, c'est Henri Laborie d'ailleurs, il faut citer son nom, parce que c'est un ouvrage important. On a tous besoin, à un moment donné, de fuir quelque chose, c'est-à-dire, en fait, de se protéger. Donc, opter pour le refuge qui est le vôtre, c'est effectivement se départir d'un ballast, sans doute, de choses qui sont lourdes à porter. Mais après, il faut y retourner. Alors, comment vous proposez ce retour à des gens qui, peut-être le voudraient-ils, mais ne pourront pas rester éternellement dans votre lieu?
Alors oui, c'est tout à fait juste. Alors, en fait, quand les gens viennent ici, ils se sentent comme dans un monde à part. Dès qu'ils pénètrent, ils ouvrent la porte, ils le disent, ils se sentent comme dans un petit paradis. Et un petit paradis, en fait, c'est un refuge. C'est quelque part où il y a de la lumière, il y a de l'écoute, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a de la fraternité. Et c'est quand ça devient comme un cocon pour eux, où ils se sentent protégés. Cette notion de protection. Ce sont des moments privilégiés où ils peuvent devenir eux-mêmes. Ils peuvent se reconnecter à qui ils sont vraiment. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de pression extérieure. Et c'est à travers la parole aussi, le partage, à travers le silence qu'ils vont trouver ici, qu'ils vont pouvoir justement se reconnecter, je dirais, à la meilleure partie d'eux-mêmes. Et j'ai souvent comparé ce lieu à un port, avec un T. À un port où il y a des bateaux qui viennent, vous savez, ils viennent se ravitailler au port avant de repartir. Et c'est ce qui se passe un petit peu ici. C'est-à-dire que les bateaux, ce sont des âmes qui viennent, qui ont besoin de quelque chose, qui ont besoin de nourriture, qui ont besoin de se ravitailler en quelque chose de positif. Et donc, ils viennent se ravitailler une semaine, deux semaines, un mois, un jour, une heure, peu importe. Et pour pouvoir repartir plus fort, plus serein. Et oui, voilà, je crois que c'est vraiment ça, ce lieu.
On parle aussi de port d'attache. Et un port d'attache, c'est un port où l'on revient régulièrement.
Oui.
Alors, est-ce que c'est le cas de vos...
Oui, c'est le cas, je pense, à des
participants,
à des gens.
J'ose pas dire stagiaires, parce que participants... ou,
c'est vrai que
public.
Oui, c'est vrai que ce lieu, les gens me le disent, et il y a des gens qui viennent régulièrement, une fois par an, de Paris, d'un peu partout. Voilà, justement dans ce but de se retrouver eux-mêmes et de retrouver pas seulement eux, mais en même temps le lieu. Et la petite lumière qui brille dans ce lieu, le phare, on va dire, voilà. Et c'est pareil pour les jardins, hein, des gens qui sont venus une première fois. Ben, ils se sentent comme attirés, ils ont envie de revenir, ils ont besoin de revenir. Il y a une partie en eux qui les appelle, juste pour retrouver un moment d'apaisement, un moment où ils vont juste se poser, reprendre des forces.
Entretenir ce qu'ils ont
acquis ici. Et continuer.
Et continuer un petit peu. Merci.
Alors avant de passer dans les détails peut-être plus spécifiques, une chose que j'aurais aimé ajouter encore, c'est cette... quand on parle justement des apprentissages que ce lieu peut donner aux gens aussi, c'est le fait d'accepter le changement qui se passe dans notre vie, dans nos vies. Et notamment, bien sûr, à travers la nature. Et la nature est changeante tous les ans, à chaque saison, suivant la météo, et qui est très changeante en ce moment, ou parfois pas du tout. Et cette acceptation est en même temps un apprentissage spirituel, je trouve aussi, qu'on peut rapporter dans sa vie quotidienne.
Oui, alors, les aspects pratiques maintenant de ce lieu, c'est-à-dire l'accueil tel que vous le pratiquez, tel que vous le proposez à vos visiteurs, qu'est-ce qu'on peut dire sur le séjour ici? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Francine, ça peut être 1 heure, mais ça peut être aussi plusieurs semaines. Qu'en est-il?
Alors, il y a différentes manières de venir ici, de profiter de ce lieu. C'est déjà un passage peut-être plus court de quelques heures à travers les jardins. Ensuite, ça peut être à travers une nuitée ou 2 nuitées à travers les chambres d'hôtes. Ou encore à travers un troisième projet qui est en cours et qui va être finalisé, je pense, cette année, qui est une espèce de forme d'ashram, on va dire, où on est en train de rénover un bâtiment qui va pouvoir accueillir des gens qui souhaitent faire une retraite personnelle ici. Alors là, il y aura différentes possibilités, soit une retraite totalement personnelle, simplement profiter du lieu, être en silence, une retraite personnelle accompagnée. On verra, mais ce sont des petites chambrettes en face qui vont être aménagées, très confortables, mignonnes, mais où les gens pourront, voilà, venir une semaine, un week-end, un mois, peu importe. Et vraiment pouvoir se ressourcer de toutes les manières possibles ici.
Concernant les visites, qu'est-ce qu'on peut dire sur les jours d'ouverture du château? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une saison pendant laquelle le château est fermé, le parc n'est pas visitable, ou bien est-ce que c'est toujours ouvert?
Alors le château en lui-même, pour les chambres d'hôtes et toutes les parties retraites
Oui.
personnelles,
Oui.
c'est ouvert toute l'année.
Toute l'année.
Par contre, les jardins, quant à eux, cette année, ça sera ouvert du 1er mai au 30 novembre. Et l'année prochaine, nous ouvrirons également au mois d'avril.
Très bien. Oui, alors, puisque vous parlez d'accueil, il faudrait peut-être signaler aussi que vous avez eu ici des personnalités hors du commun en ce qui concerne la spiritualité et puis d'une façon générale tout ce qui est du domaine de la sagesse. Alors, vous m'en avez cité quelques-uns, qui sont d'ailleurs, je crois, les parrains de votre lieu, c'est ça?
Oui, alors nous avons eu la chance d'accueillir à plusieurs reprises Jean-Yves Leloup. Nous avons accueilli également, donc qui est parrain de ce lieu. Nous avons également accueilli Brother John Martin, Lama Trinley, qui est très proche de Kalon Rinpoche, également Mohamed Taleb. Voilà, et certains d'entre eux donc sont parrains de notre lieu, oui.
Oui, alors Jean-Yves Leloup, bien connu du grand public, puisque auteur prolifique, on peut dire, notamment chez Albin Michel, je crois, dans la collection Spiritualité.
Il a écrit de très nombreux ouvrages, je dirais presque proche d'une centaine.
Ah oui, je pense.
Absolument, absolument. Et c'est une personnalité aujourd'hui connue mondialement, évidemment, oui.
Oui, quand on vous a écouté, Francine et Christian, et si on résume tout cela, on comprend que c'est une affaire d'engagement. Vous vous êtes engagé de toutes les façons possibles, d'ailleurs, pas seulement dans la spiritualité, dans la botanique, la construction, l'art, l'accueil, mais dans plein d'autres choses. Alors pourquoi ça et quelle est votre référence en faisant cela?
C'est vrai que cet engagement m'amène à citer Mère Teresa, parce que cette phrase m'a toujours suivie dans ma vie et elle correspond exactement à mon souhait, à notre engagement ici. Mère Teresa disait « Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. »
En effet, bel engagement, mais délicat. Et très prenant en pensée, en énergie, en présence, n'est-ce pas, Christian?
Oui, la présence est quelque chose qui est peut-être un aspect que Francine arrive à encourager, oui, dans les gens. Et elle le fait déjà en parlant de citation. Donc là, je cite une phrase de Francine qui est affichée à l'entrée des jardins.
Ah oui.
Et qui dit « Au visiteur, dépose ici ton mental, promène ton cœur et écoute ton âme. » Et c'est justement dans ce silence qu'on arrive à trouver le beau, à rencontrer le beau. Et mon épouse a pu créer ici le beau.
Merci à vous deux.
Merci.
Merci.
Pour cette visite, Francine, nous sommes maintenant dans la chapelle et en particulier devant les magnifiques vitraux qui ont été été installés il y a longtemps ?
Alors, ces vitraux ont été installés dans les années 60, je ne sais plus exactement, dans les années 60, 65, par un maître vitrier qui habite Sorèze, monsieur Isard.
C'est ça.
Voilà, et sa fille, voilà, bien connue, et qui est en train de. Qui a passé le relais à sa fille. Ils travaillent toujours ensemble. Je crois qu'il a plus de 90 ans, ils travaillent toujours. Il est venu lorsque nous avions fait une journée porte ouverte pour le patrimoine. Il était venu et nous a expliqué un petit peu donc ce travail, que c'est un travail unique, hein, puisqu'il l'avait fait au début, de quand il était devenu maître vitrier. Et il y a une particularité à ces vitraux, c'est à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il a créé un drapé qui a priori est unique, un drapé entre ces vitraux. Ça lui a pris énormément de temps, c'est très très beau.
Donc on les regarde tant de l'intérieur que
de l'extérieur, c'est ça. D'accord. Et c'était tellement difficile à mettre en œuvre, ouais, que par après il a arrêté, il ne l'a plus jamais refait. Voilà, donc ça les rend totalement uniques.
Unique et au premier abord assez abstrait. Alors qu'est-ce que ça représente, symboliquement ou figurativement ?
Alors je lui ai demandé si ça représentait quelque chose, parce qu'effectivement on retrouve, on dirait un peu la mer en bas, avec
barque,
voilà. Oui. Et en fait non, il a dit que ça ne représentait rien, qu'il laissait, voilà, c'était comme un tableau abstrait, ouais, et que c'était aux visiteurs ou aux... Ou à la personne qui prie, voilà,
le sens.
Voilà, de créer le sens.
Mais là, pour l'instant, c'est la lumière qui crée la forme et la sensation. Hein. Il y a des,
oui,
orangés, des rouges, des bleus. En effet, le bleu est en bas, donc on peut penser que c'est une surface aquatique.
D'eau,
alors,
voilà.
Qui vient ici dans cette chapelle qui fait partie donc du château de Verdal?
Alors, principalement, à ce jour, c'est nous, voilà, pour des moments de méditation, des moments de prière, de recueillement. Ce sont aussi c'est une possibilité aussi pour les clients en chambre d'hôte, puisqu'il y a des personnes qui souhaitent des fois retrouver un petit peu de paix, d'apaisement. Donc, ils ont soit le jardin, soit la chapelle. Il y a également des marcheurs sur le chemin de Compostelle.
Bien sûr, oui.
Voilà, donc ils viennent et donc à ce moment-là, ils peuvent...
Très bien. Nous parlerons d'ailleurs tout à l'heure de l'accueil ici,
oui,
au château de Verdun, qui,
oui,
est une part importante de votre activité, n'est-ce pas ?
Oui, absolument. Et c'est une chapelle qui a été déconsacrée par le diocèse d'Albi au moment avant la vente. Et nous l'avons fait reconsacrer par Monseigneur Martin, qui est évêque de l'Église orthodoxe française du monastère Saint-Michel du Var. Voilà.
Ah, c'est important. Merci d'ajouter cela.
Merci.
Cette émission va prendre fin. Au cours de celle-ci, les pauses musicales vous ont proposé d'écouter successivement l'air d'Uriel dans Die Schöpfung, la création de Joseph Haydn, puis de Hildegard von Bingen, un Ave Maria, ensuite un chant soufi, Must, était interprété par l'immense chanteur pakistanais Nusrat Fateh Ali Khan et son groupe vocal et musical. Et enfin, Mama Maria Mama Nabeto, un chant liturgique congolais en langue Lingala.